d'être un animal modifié. Alors imaginez, nous sommes à l'origine une amibe. Okay? Nous sommes des amibes modifiées discutant sur la destinée des amibes modifiées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Ça c'est la culture contemporaine. Okay? Alors qu'est-ce qui leur est arrivé? Il y a une sorte de renonciation à l'identité humaine comme par la Torah et un consentement à être de nature. Vous avez entendu parler du naturisme, okay? Et on érige ça en vertu en plus. Okay? Voilà, je vais juste dire. Alors, j'espère vous avoir montré suffisamment qu'il faut distinguer entre l'observation scientifique positive et les romans que les scientifiques racontent là-dessus. Voilà, c'est clair que vous dites ça? Bon, ça vous donnera en tout cas des éléments pour ce premier sujet, et là c'est très frappant. Alors maintenant, le pluriel de Naaseh Adam, peut-être vous pouvez l'étudier dans le Midrash, et si vous voulez qu'on l'étudie maintenant, je veux bien, que la bêtise. Oui. Comment? Oui. Eh bien, je vais vous dire. Ce que la Terre n'a pas réussi, c'est à faire un corps suffisamment vaste pour que l'aneshama qui lui est destiné. C'est pourquoi le verset dit Vaïtse Hashem Elokim et Adam, Rafar Mina Adama, Vaïtar Beaba. Il y a deux niveaux, okay? C'est-à-dire le corps lui-même a été fait par Dieu. Ce que la Kabbalah appelle les bouchines d'Ikar. Nous avons un vêtement précieux que la terre n'a pas réussi à tisser. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Alors là, il y a le rachis que vous citez tout à l'heure et qui est extrêmement difficile. Quand vous l'avez dit, tout est fait par sa parole. Le rachis nous dit, mais l'homme, c'est Béadaïm. Alors, cherchez ce rachis, réfléchissez, jusqu'à la prochaine fois, on le réétudiera. Okay? C'est-à-dire, même le corps. Et alors, à partir du moment où le corps est suffisamment agencé pour la neshama qui lui est destinée, peut y venir. C'est clair? Et un autre niveau, c'est clair que pas n'importe quel neshama vient dans n'importe quel corps. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire relié au commandement du respect des parents. Et une des bases de cette exigence du respect des parents que la Torah nous donne dans les 10 commandements, c'est que c'est eux qui nous ont préparé le corps que nous avons et qui fait que c'est cette neshama qui vient. Vous connaissez le Midrash qui dit que 3 participent à la création de l'homme, le père, la mère, et après le Baruch Hu pour le neshama. Et par conséquent, une sorte de chitouf entre les parents et Dieu lui-même, faire la personne que chacun de nous est. À quel niveau? Eh bien, ils ont préparé le corps qui est le nôtre. Et qui fait, encore une fois, que l'aneshama que nous sommes a pu venir sur terre. D'où le commandement impérieux du respect inconditionnel vis-à-vis des parents, quel que soit le problème qu'on avait. Ça, je dis pour ceux qui ont le problème. Bien, alors on revient à notre problème. Et je voudrais commencer à lire les débuts du chapitre 4. Okay? Alors, on va laisser de côté la première génération. Qu'est-ce qui s'est passé entre Adam et Akadosh Baruch Hu? À travers Chava, le serpent. Il n'y a malheureusement jamais de jardin sans serpent, mais puis vous. Et tout ça, on verra. Alors là, nous allons assister à la naissance de la société humaine et comment la Torah le décrit. Be'a Adam, Yadar et Chava Ishtu. Et Adam connut Chava, sa femme. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait expliquer là-dessus, mais on aurait besoin des indications des chapitres précédents. Alors je passe. Je vais citer uniquement, mettre en évidence uniquement ce dont nous avons besoin pour notre sujet. Vatahar, elle conçut Vatelev et Caïn, et elle enfanta Caïn. Vatomer, et elle dit, Kaniti ish, j'ai acquis un homme, et Hashem avec lui. Bon, ce verset est très difficile. Il faut le décomposer en chaque mot. Je vais prendre à partir du moment où ça concerne notre sujet. Première question. On assiste à la première naissance d'un fils d'homme. Alors, par postulat, on ne sait pas comment ça se passe. Imaginez l'étonnement des parents, Adam et Chava, et c'est Chava qui parle, en donnant le nom à l'enfant, l'étonnement de l'apparition dans le monde, non pas d'un Adam, et d'un ben Adam, d'un fils d'homme. Est-ce que c'est vrai?
Bon.
Mais la Torah nous a donné une précision supplémentaire. Elle nous dit, Vatahar, elle conçut, Vatered et Caïn. Ce mot de elle conçut, c'est d'autres mots. Il est évident que si elle a enfanté un enfant, il va s'appeler Caïn, on verra pourquoi, c'est qu'elle a conçu. Et ça, c'est une grande règle de la lecture des textes de la Torah. Il n'y a jamais de mot inutile. Il n'y a pas de lettre inutile. C'est une économie du texte. Par conséquent, il faut que nous comprenions ce que ça veut dire Vatahar. D'autant plus qu'il y a souvent des récits d'enfantement où il n'y a pas Vatahar. Alors, je vais vous donner une explication. Il s'est passé une transformation de l'identité humaine. C'est ce qui se passe dans le sein de la mère. Elle conçut, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Le fils est finalement le père modifié par la mère. Alors, lorsqu'il y a Vatahar, ça veut dire que ça s'est passé. Est-ce que c'est clair? C'est pas une copie conforme de l'identité du père. Le père ici c'est Adam, okay? Et là nous avons l'apparition du premier Ben Adam. S'il avait réussi ce Ben Adam, c'est lui le Mashiach, c'est-à-dire l'être pour qui Dieu a voulu créer le monde. Et il a créé le premier homme comme père du Ben Adam. Ça c'est un autre thème que nous verrons d'autre part, mais je vous l'annonce déjà. Et on nous raconte l'histoire des engendrements du Ben Adam. Et alors, dès qu'il y a un Ben Adam, eh bien, ça pourrait être le Ben Adam Amiti, que nous appelons le Mashiach pour d'autres raisons. Okay? Mais les prophètes commencent par l'appeler le Ben Adam. Beata, Ben Adam, Beata, Ben Adam. Okay? Donc. Et alors, on va voir qu'il va échouer, ce Ben Adam-là. Mais c'est plus un Adam. Il ne se connaît pas comme Adam se connaissait. Adam se connaît comme sorti des mains du Créateur. Pour lui, on ne lui raconte pas d'histoire. Okay? Il sait d'où il vient, Adam. Caïn, enfin, le Ben Adam, c'est déjà un autre discours. Il est sorti d'une femme. C'est déjà un tout autre processus. Est-ce que c'est clair? On pourrait paraphraser un peu cela en disant que Adam Arichon n'avait pas de nombril. Par conséquent, en se regardant, il savait qu'il était créé. Et non pas sorti d'un cordon ombilical. Tandis que le Caïn, lui, il est sorti d'une conception de l'identité Adam. Conception dans le sens engendrement. Hein, pas dans le sens conceptuel. Pas encore. Alors ce Vatahar est très important. La Torah raconte que en Chava s'est produit quelque chose d'important. Elle a conçu. Alors est né un fils. Et non plus un Adam. Il est né un Ben Adam. C'est fait. Elle va l'appeler Ish. Vous allez voir la différence de ces deux mots. Adam, c'est l'identité humaine à l'échelle de la nature humaine collective. Tous, nous sommes des Adam. C'est-à-dire des Ben Adam. Mais chacun est un ish particulier. Alors, la notion de homme individuel n'apparaît qu'avec le Ben Adam. C'est pourquoi elle dit qu'aniti ish est un fils. Alors, réfléchissez à ça, cette mutation qui est indiquée par le Vatahar, c'est qu'on passe de l'identité collective qui s'appelle Adam à la possibilité de l'identité individuelle qui s'appelle ish. Vous suivez? Moi, je me borne à traduire pour le moment. C'est clair? Alors, je vais mettre en évidence un problème de lecture, une minute, ça. C'est ceci. Normalement, le texte biblique ne s'exprime pas exactement comme ça. Le texte biblique, je vous donnerai d'autres exemples tout de suite, rappelez-moi, aurait dit, Vatahar, Vatelet Ben, Vatikra et Shemo Kaïn. On est plutôt habitué à cette formule-là, c'est-à-dire, elle conçut, elle enfanta un fils, et elle lui donna comme nom Kaïn. Or, le texte est beaucoup plus raccourci, beaucoup plus précis d'ailleurs. Elle enfanta, elle conçut un enfant à Caïn, comme si cet enfant ne pouvait s'appeler que comme ça, et que ce nom, c'est son nom d'homme. C'est ce que Hava explique. Qu'est-ce que ça veut dire Caïn? Kaniti ish et Asher. C'est un homme qui, une manière d'être homme, qui, lorsqu'il prend conscience de lui-même, prend conscience de lui-même comme étant déjà acquis. Il n'a pas à s'acquérir. Notez cela parce que c'est important pour la différence qu'il a avec Abel. Une forme de conscience très différente de celle du Adam. Encore une fois, Adam se connaît comme sorti des mains du Créateur. Il n'a pas besoin de professeur de théologie. Okay? Vrai? Caïn, lui, il se connaît comme issu de l'humanité, issu d'une matrice humaine. Alors, il se connaît comme acquis. Il n'a pas à faire l'effort du mérite moral qui fait que je mérite d'être. Alors vous avez tout un profil humain qui est très important à diagnostiquer ici. Des hommes qui, lorsqu'ils se connaissent, ils ont conscience d'eux-mêmes, se connaissent comme étant eux-mêmes l'être. Alors ils ont un problème avec Dieu, ou le même. Alors que nous verrons que l'identité Israël se décrit de manière tout à fait autre. C'est lui qui est l'être, et moi je suis en plus. Voilà, vous voyez, il y a une équation très différente. L'homme de nature se connaît comme s'il était lui l'être, et alors il y a une difficulté avec la morale, parce qu'il n'a plus à acquérir le mérite d'être. Alors la morale a posé ça. Il a une limite. Est-ce que c'est clair ce que vous m'avez dit ? Ça va être le handicap de Caïn dès le début de son histoire. Alors que Abel, on va voir tout de suite le verset suivant, verset 2, va tosser pour l'aider. On traduit comment ? Vous avez un texte français ? Quel ? Il y a un sens unique. Alors, habituellement, on traduit et elle enfanta en plus, elle enfanta ensuite, mais c'est traduit trop approximativement, suivant en hébreu. Va tosser pour l'aider. Elle ajouta d'enfanter. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, assister à la scène. Il y a un enfant qui est né. C'est d'abord énorme. On ne s'attendait pas à ça. Un Ben Adam qui apparaît d'où il sort. Okay. Donc. Et puis, on croit que c'est fini. Pas du tout. Il y en a un autre qui vient en plus. Et celui qui vient en plus a conscience de lui autrement. Lui se connaît comme étant en plus. Et que l'essentiel, c'est l'autre. Vous compris qu'il a là deux profils de sujets radicalement différents. On va voir tout de suite le dégagement dans la suite du verset. Va toser par l'aider, elle ajoute à l'enfanter, et arrive son frère. Alors, je pense bien qu'il ne s'agit pas ici d'une indication d'état civil. Parce qu'ils ont la même mère, c'est le frère. Mais c'est un nom qui indique la manière d'être. Abel est capable d'être frère. Il est capable de ce qu'on appellera plus tard la valeur de fraternité. Pourquoi ? Mais d'Afka, parce qu'il est né en plus, il est né comme frère. Je vais essayer de vous décrire ça. Il y a le fils. Et lui va avoir un problème. Qui c'est cet être en plus qui est chez moi ? Okay ? Il y a le frère. Qui sait qu'il est invité chez l'autre ? Parce qu'il est né en plus. Il se connaît comme étant né en plus. Vous suivez ? Alors l'un est réfractaire à la moralité, par nature, c'est Caïn. L'autre est au contraire porté à la moralité d'origine. Et je vais raconter une petite anecdote qui m'a frappé quand j'étais étudiant à Paris. Il y avait un journal de la LICA, aujourd'hui ça s'appelle la LICRA. Le journal s'appelait Le Droit de Vivre. Je crois que ça fait longtemps. Il existe encore. Donc, voilà. Vous voyez, le problème de Havel, il aurait pu fonder ce journal-là, c'est d'obtenir le droit de vivre chez Caïn. Ce qui est d'ailleurs un scandale. Okay. Mais je veux dire, tout de suite, on nous apprend que voilà comment se mettent en place les données de la société humaine. Il y en a un qui est l'être. Il est chez lui. Et il y en a un qui est en plus. Et alors, vont s'organiser les rapports de relations entre ces deux manières d'être. Homme, celui qui croit qu'il est l'être, qu'il est chez lui, et il a donc une vocation totalitaire, c'est évident. Et l'autre, qui se connaît comme étant en plus et qui a une vocation de moralité dès le départ. La suite, on a déjà appris qu'il est frère. Okay. Et vous verrez que toute la ligne de recherche du récit biblique, c'est par où passent les frères. Par où passent les frères, ceux qui sont capables d'être frères, c'est là que l'alliance va être contractée. Vous avez remarqué ça, je suppose. Okay. Remarquez en tout cas, et nous le réétudierons, que dès que Caïn va tuer Abel, on va voir pourquoi, le mot de frère disparaît du récit. Et ce mot de frère ne revient dans le récit qu'avec Abraham. Et avec Abraham, c'est une accumulation. Il n'y a pas seulement le frère, il y a la sœur, vous verrez tous ces récits, hein, au point qu'Abraham dit de sa femme qu'elle est sa sœur, ça va jusque-là. Okay. Et il faut donc caractériser l'identité du frère comme frère. Et celui qui est capable de fraternité, c'est lui qui va être l'objet de l'alliance du frère. Et on voit tout de suite. Le nom de Havel est caractéristique. En hébreu, ça veut dire un souk, quelque chose d'éphémère. Et Caïn, un être acquis. Hevel, en plus. Vous comprenez ce mot, Hevel, le souk. Un épiphénomène, diraient les philosophes. Et regardez tout de suite ce que dit les versets. Vaïe Hevel roi Esom, Or, Abel devint berger de troupeaux, c'est sa vocation de nature, naturelle. Qu'est-ce qu'un berger? Eh bien, c'est celui qui, au niveau de l'insertion de la société, réalise l'être frère. Qu'est-ce que le frère? C'est celui, si on a bien compris, c'est celui qui va s'occuper de l'autre. Et le berger, c'est qui? Ben, c'est ça le berger. Alors, plus haut, vous avez le prêtre. On va passer par le pasteur. Alors, vous avez le frère, le berger, le pasteur, le Kohen. Et c'est ça que cherche la Torah. Par où passe le vrai premier-né? C'est-à-dire celui qui sera candidat à être Kohen. Alors que Caïn, eh bien, lui, il travaille la terre, il est le propriétaire. C'est clair? C'est-à-dire même au niveau de leur engagement, de ce qu'on va appeler leur métier d'homme, leur identité est différente. Et voilà grosso modo la première lecture. C'est-à-dire, on nous a mis sur place deux sujets qui sont de nature différente. Alors là, il faut se dégager des illusions de ce à quoi on était habitué dans la culture contemporaine. Je vais passer très rapidement par cette analyse. On a été habitué à la notion d'égalité des personnes. Ce qu'on découvre ici, c'est que les personnes ne sont pas égales. Il y a une relation d'intersubjectivité qui n'est pas équivalente. La manière dont Caïn se relie à Abel n'est pas la manière dont Abel se relie à Caïn. Caïn et Abel ne sont pas égaux. Nous sommes tellement impressionnés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que les hommes naissent égaux en droit et en devoir, que sont encore après. Donc, que on croit que ça va de soi. Je crois qu'il suffit d'ajouter un mot. Que ce que la Révolution française a ajouté comme valeur dans l'histoire de l'humanité est très important. C'est la notion d'égalité de dignité. Seulement, malheureusement, on a traduit ça comme si les gens étaient vraiment égaux. Or, je vais dire ça en hébreu. En hébreu, il n'y a pas d'égalité au niveau des personnes. C'est un blasphème. À la limite, des objets peuvent être égaux. Mais des personnes égales. Je vais vous montrer deux mots en hébreu, pour ceux qui savent hébreu. Mais excusez, je ne sais pas au tableau, je vais vous dire les lettres. Shin Vav Aleph, c'est-à-dire Shavé. Shin Vav Aleph, Shavé, égal. Non, slicha, Shav. Bon, vous avez deviné. Shin Vav Aleph, c'est Shav, ça veut dire 20, V-A-I-N. Et Shin Vav He, ça veut dire égal. Bon, le sens est très clair. S'il y a deux choses égales, il y en a une qui est vaine. C'est clair? C'est-à-dire, c'est très dangereux de désigner les hommes, les personnes, avec des numéros d'ordre de la quantité. Vous avez tout de suite à la limite les wagons à bestiaux. Chav et Chavé. Voilà. Vous voyez cette analogie en hébreu. Alors, bon, je crois que l'idée est simple à comprendre. À la rigueur des objets, ça peut être additionnable, soustrayable. Des personnes. Vous voyez, la notion d'égalité ainsi entendue ne marche pas. Donc il ne peut s'agir qu'une égalité de dignité. Et non pas une égalité réelle. Je vais raconter un souvenir de l'armée française. Dans l'armée, on avait ce qu'on appelait le pré-franc. Surtout ceux qui mangeaient pas cher, c'était très rare à l'époque de s'exister. Et on recevait une somme d'argent, le pré-franc, pour subvenir à sa nourriture. Alors, vous aviez des soldats qui recevaient la même quantité de nourriture. Mais vous en avez qui mangeaient plus, et donc ils avaient faim. Vous en avez qui mangeaient moins. Et finalement, vous voyez, il n'y a pas égalité stomacale. Alors là, la solution, c'était qu'il y avait certains soldats, en gabarit, on leur donnait deux préfronts. Mais c'était trop. Ben, vous comprenez que ça ne marche pas. Chacun est lui-même. Je crois que la formule de la révolution marxiste, la révolution d'octobre est plus exacte que la formule de la révolution française. Et quelle est la formule de la révolution d'octobre? C'est à chacun suivant ses besoins. C'est beaucoup plus exact que tout le monde est égal, vous toucherez le même préfranc. Vous avez compris ce que je dis? Voilà un exemple. Bon, ce que les soviétiques ont fait de ça, c'est un autre cours, c'est une autre histoire, mais on va dire qu'il y a une vision philosophique beaucoup plus exacte de cette même. Ce que je veux dire, c'est que à partir de là, nous allons apprendre que il y a deux types d'humanité dans l'humanité, concernant la position du problème de la société, les rapports entre sujets. C'est l'homme à la manière de Caïn, et l'homme à la manière de Abel. À la limite, chacun d'entre nous est un peu comme ça, un peu comme ça. Et il y a des dominants. Vous avez des hommes caïnites plus et des hommes abéliques plus. Mais méfiez-vous, cette équation Caïn-Abel, on l'a proposée, c'est l'égoïme surtout, pour rendre compte de l'équation l'égoïme Israël. C'est pas du tout celle-là qu'on va retrouver. Parce que Abel est assassinat, alors qu'Israël n'est pas assassinat. C'est les chrétiens en particulier qui avaient intérêt à nous donner la vocation de Abel. Laisse-toi assassiner, tu vas sauver le monde. Voilà, ça je reviendrai plus tard. Mais méfiez-vous de cette tentation d'idée, si j'ose dire. Alors ça m'amène, et ensuite il reste un moment où vous avez la parole, ça m'amène à vous proposer un premier schéma sur lequel vous allez réfléchir pour la fois prochaine. Il y a eu quatre types de civilisations qui ressortent de ce problème posé à l'homme. Chaque fois qu'il y a relation entre un sujet humain et un sujet humain, apparaît l'équation suivante. Suivante, c'est que l'un est sujet de l'acte et l'autre est objet. On mettrait la première équation, sujet-objet. L'objectif du problème moral, c'est d'arriver à restaurer la dignité de celui qu'on a mis comme objet. Je vais vous donner un exemple, je reste clair. Je vous parle. Alors, c'est moi qui suis sujet, c'est vous qui êtes objet. Par conséquent, je dois parler d'une manière telle qui garantisse votre dignité. Sinon, le problème moral est un échec. C'est clair. Et qu'est-ce qu'il arrive ? Un assassinat, finalement. Caïn, tu es Abel. Parce que tu es quelqu'un, ça veut dire rendre un sujet objet. Fini. Cadavre. C'est clair ? D'ailleurs, bon, je dis pas ça encore, c'est mélangé. Et inversement, vous m'écoutez. Ça veut dire que vous êtes sujet et moi objet. Donc vous devez écouter de manière telle que ma dignité soit restaurée. Si on résout cette relation de sujet à sujet, le problème moral est résolu. Est-ce que c'est clair? Et toutes les situations de la vie, c'est les occasions où cette solution doit être trouvée. Alors il y a un premier type de civilisation qui n'a pas trouvé de solution et qui s'est borné à la première équation, c'est... Puisqu'il faut un sujet à un objet, ben je serai sujet, tu seras objet. C'est le totalitarisme. C'est moi qui suis, et toi, tais-toi. Vous avez compris le problème. Ça, c'est Caïn tuant Abel. Et ça, c'est la solution matérialiste de la vie, totalitariste au niveau sociologique. Je serai le sujet, tu seras l'objet. C'est clair jusque-là ? Il y a une réaction à cela. Quand la conscience morale s'éveille, ça ne marche pas. Cette réaction, on la trouve surtout dans la théorie chrétienne, je ne dirais pas dans la pratique, mais dans la théorie chrétienne. Puisqu'il en est ainsi, qu'il faut un sujet, un objet, eh bien, sois toi le sujet, moi je serai l'objet, parce que je ne veux pas être assassin. Et vous voyez, là, le profil de la théorie chrétienne, l'esprit de sacrifice. Je serai l'objet, tu seras le sujet. C'est clair ? Les chrétiens n'ont jamais vécu comme ça, hein, dans la société. Enfin, c'est leur programme officiel. Dans les couvents, il y a des choses comme ça. Hein ? Non, mais vous ne connaissez pas ce que c'est que le couvent, pas ça. Alors, on revient à notre analyse. Vous voyez, il y a une troisième possibilité. Là aussi, il y a échec. C'est-à-dire, il y a un énorme esprit de sacrifice, mais il y a échec du problème moral, parce qu'il y a une victime. Et que la victime soit l'autre ou moi, il y a une victime. Est-ce que c'est la théorie de la joue droite, la joue gauche. Tu m'as pris la joue droite, tiens, voilà la joue gauche. Et la preuve que les chrétiens n'ont jamais vécu comme ça, c'est que c'est eux qui ont poussé l'art de la guerre à un point tel que le contraire. Mais enfin, il y a des idéalistes chez eux qui pensent que c'est ça la vérité, mais c'est une erreur fondamentale. Nous verrons tout à l'heure pourquoi on tombe à ces erreurs. Alors, en Extrême-Orient, je schématise beaucoup, la réaction, je vais l'analyser chez les bouddhistes que je connais le mieux, mais c'est en général la mystique, la philosophie de l'Extrême-Orient qui est là. Et le principe, c'est que si tout geste d'histoire entraîne un sujet et un objet, il faut arrêter vite. Pour qu'il n'y ait pas de douleur, pour qu'il n'y ait pas d'acte. Bon, je ne suis pas chargé de vous apprendre le bouddhisme, mais enfin, c'est à peu près la formule bouddhiste. Alors, les deux seront objets. Comme ça, il n'y aura pas de sujet qui associe un autre. Alors, vous avez une troisième formule, objet, objet. On a arrêté l'histoire. L'idéal bouddhiste, c'est d'atteindre ce qu'ils appellent en français l'équanimité, l'égalité d'humeur. Pour ça, il ne faut pas agir. Parce que n'importe quel acte entraîne un meurtre. entraîne notre problème de départ. Caïn tue un Abel, à la limite. C'est clair? Alors on arrête. Il y a un proverbe chinois qui vient de mon sens et qui dit il vaut mieux être assis que debout. Couché qu'assis et mort que couché. C'est la sagesse chinoise. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas arrivé à trouver le fonctionnement, le secret du fonctionnement de la société pour que la morale soit sauvée, pour que la dignité d'autrui soit restituée, pour que Abel ne soit pas assassiné. Alors on s'arrête, on arrête l'histoire. Alors vous devinez qu'il ne reste qu'une quatrième équation. Je vous rappelle les trois premières. Le totalitarisme qu'on trouve surtout du point de vue théologique dans l'islam. Je serai sujet, tu seras oublié. Donc découvrez l'islam. Hein. Et puis, deuxièmement, le christianisme. Je serai oublié, tu seras sujet. Zan. Enfin, soit disant. C'est rien, c'est du tout. Et alors, troisième formule, l'extrême-orient. On arrête l'histoire. Objet, objet. Quatrièmement, c'est la formule de la Torah. Chacun reconnaît l'autre comme supérieur, alors il n'y a pas d'inférieur. Mais il faut qu'il y ait réciprocité. Alors, chacun reconnaît l'autre comme le sujet. Et si c'est réciproque, il n'y a pas d'objet. Vous avez compris? La formule est très simple à comprendre. C'est à faire qu'elle est difficile. Si tu as bien compris le christianisme, c'est l'inverse. Je serai l'objet et tu seras le sujet. Et le christianisme, c'est pour empêcher que moi je sois assassin, je te laisse toi être mon assassin. C'est ça que je veux dire. Et je vais vous nourrir un peu cela. Regardez, même en français, enfin en hébreu c'est clair, chacun dit à l'autre Adoni. Alors il n'y a pas d'aïeul. Mais si l'autre se prend au sérieux quand on lui dit Adoni et qu'il entend ah, tu es mon aïeul, c'est la catastrophe. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans la paracha entre les Vaishnav, entre Yaakov et Esav. Yaakov dit à Esav Adoni, et l'autre il se prend au sérieux. Ah, je suis ton Adon, d'accord. Alors c'est, et oui, en français, quand on dit monsieur, étymologiquement ça veut dire mon seigneur, mon sieur, okay, c'est Adoni. Mais alors, essayez de bien comprendre la différence, okay, c'est-à-dire le chrétien tend à être l'esclave du Seigneur. Et, tandis que le juif, non, on est en relation de Seigneur. Adoni, Adoni, c'est clair. Adonai, c'est ma choix. Bien fait. Bien, bien fait. C'est exactement ça. Tu as une minute du jour et finir ça. Et alors, on arrive finalement à l'essentiel de la consigne de la Torah. Et je vais l'expliquer rapidement comment ça se passe entre Caïn et Abel. Oui, le problème moral pour Caïn, c'est de faire une place à son frère, quelque part. C'est clair? Le problème moral pour Abel, qui lui est né moral, si j'ose dire, donné à la moralité plus exactement, parce qu'il est né en plus, parce qu'il le sait, il sait que c'est l'autre qui est l'essentiel, et c'est ça la moralité. À la limite, l'autre, c'est lui qui nous a créés. Alors, pour lui, c'est d'éduquer son frère. Et la catastrophe, c'est que Abel n'a pas réussi à éduquer son frère. Alors, Caïn a tué Abel. Je vais vous donner une petite échappée dans notre histoire, et après vous aurez la parole pour 5 minutes, à moins que vous ayez faim déjà. C'est que les Juifs, dans la dernière civilisation, comme dans toutes les autres, se sont raconté un roman. Nous avons la charge d'éduquer les Goïs. Vous voyez comment ça ressemble, hein? Abel et Caïn. Imaginez Abel, on lui demande quelle est sa mission dans la Galoute, parce qu'il est en Galoute chez Caïn. Ah, il disait, c'est d'éduquer Caïn. Ah bon, qu'est-ce que tu lui apprends? Tu lui apprends, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon. Et si tu réussis pas, je réussirai. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a pas réussi, et Caïn l'a tué. Alors deux choses, c'est clair? Deux choses. Ou Abel réussit, c'est très bien, c'est les temps messianiques, ok? Ou il réussit pas, deux choses. Ou il se sauve, ou il reste, il est massacré. Alors c'est ce qui est arrivé à l'histoire. On a fait semblant que notre objectif, c'était d'éduquer l'égoïsme. Et on a échoué. Et je vais poser une question. Peut-être que Caïn est inéducable. Imaginez 2000 ans de christianisme et l'Allemagne est restée l'Allemagne. Alors peut-être qu'ils sont inéducables. Alors qu'est-ce qu'on reste sur eux? Mais ça, les juifs n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'il y a dans ce récit? Si déjà tu joues à Abel, alors réussis. Parce que sinon, gare à toi. Ou bien tu t'enfuis et puis ils ne sont pas enfuis. Ils sont restés. on parlera beaucoup de ce problème. La Shoah, l'histoire juive, les persécutions, l'antisémitisme, la mission, la mission des juifs, la citoyenneté, etc. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Qu'est-ce qu'on avait à leur apprendre aux juifs? On avait à leur apprendre, tu aimeras ton prochain, comme toi-même, avec un mode d'emploi. Parce qu'ils n'ont pas le mode d'emploi. Le chef en a d'autres. Eh bien, on n'a pas réussi. Alors, c'est très grave, là. Parce que peut-être, encore une fois, Caïn est inéducat. Alors, je vais vous dire, dans les mêmes choses, il me semble qu'à l'échelle individuelle, on peut réussir. À l'échelle collective, c'est une civilisation qui a dit ce qu'elle est. Elle est caïnique. Vous savez que la planète entière dépend d'un geste, d'un fou quelconque qui la ferait sauter. Mais qui a fabriqué ça? Eh bien, c'est cette fameuse civilisation occidentale. On les a aidés, vous dites. Bon, c'est clair ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il faut bien prendre conscience de ça. Les juifs de l'exil nous racontent des histoires. Ils nous disent, nous avons une mission chez les Goïs. Quelle mission? Laquelle? Gagner de l'argent chez eux, ça on sait. Et c'est même pas la peine d'être otage chez eux pour gagner de l'argent avec eux. Bon, vous avez compris la gravité du problème. Ça se relie à tout ça. Alors on verra d'ailleurs la suite de l'histoire, mais vous voyez que l'équation du problème moral pour l'un et pour l'autre est différente. Caïn, encore une fois, son accès à la vertu, c'est quand Abel a le droit de vivre, comme je disais tout à l'heure. C'est inouï, mais c'est ça. Et nous avons vécu cela, d'une certaine manière. Alors que le problème moral pour Abel, c'est d'arriver à éduquer Caïn pour que ça s'arrange. Est-ce que c'est clair? Eh bien voilà, je crois que deux choses, ou bien Caïn est inéducable, ou bien que Abel a échoué. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une espèce de scandale. C'est la victime qui meurt et l'assassin qui reste en vie. Vous avez remarqué le scandale? Il faut réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on retrouvera ça la prochaine. Okay. Mais il ne s'agit pas qu'Abel n'est que le premier. Il s'agit qu'on nous apprend que celui qui naît le premier est inévitablement est comme Caïn, donc il faut l'aider. C'est celui qui naît en plus, qui sait qu'il est en plus, qui est le véritable aîné de l'éducation. Je ne sais pas si vous connaissez cet enseignement, il vient du genre, mais il y a là tout un chapitre là-dessus, à propos de l'histoire d'Ésaü d'ailleurs, on y arrivera à ce moment-là. Il y a un grand problème, qui est l'aîné véritable, Ésaü ou Jacob? Sauf on sait que c'est Jacob. Et c'est un verset qui dit, béni Bechori Israël. Et alors, le Zohar explique comment on lit Bechor. Les trois lettres de Bechor, c'est les deuxièmes lettres. Bet, c'est la deuxième des unités. Kaf, c'est la deuxième des dizaines. Et Resh, c'est la deuxième des centaines. Donc, Bechor, c'est le deuxième. Celui qui sait qu'il est le deuxième, c'est lui le vrai premier. Parce qu'il sait qu'il y a un premier avant lui. Celui qui dit c'est moi le premier, eh bien, c'est pas le premier. Ah, vous avez compris une petite chose. C'est-à-dire, le Bechor, c'est celui qui sait qu'il a un créateur. Alors, il est le vrai créateur. Et donc il reçoit la bracha, c'est les mêmes lettres. Mais c'est pourquoi le Midrash dit que. Bon, bref, ouais, je n'ajoute pas encore ce Midrash, c'est trop. Ça veut dire, voilà, l'histoire, c'est les Goïms qui la font. Croyez pas que c'est le peuple juif qui fait l'histoire. L'histoire, c'est Caïn qui fait l'histoire. Et Abel était là pour éduquer Caïn. Alors il a échoué, ce Abel-là. On va voir qu'il y a une solution autre, qui est celle du troisième fils d'Adam, chef. On verra la prochaine. Et je vous ai dit, l'équation Israël et Goïm, ce n'est pas Abel et Caïn. Parce qu'Abel est vulnérable, alors qu'Israël a une alliance inassassinable. Mais à quel prix? C'est bon, voilà la question. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire là-dessus. Je crois qu'il y avait d'autres questions rapidement.
Une petite question, c'est quand Yaakov se fait passer pour Esav et qu'il vient d'annoncer faire des éditions, la cabana de l'Israël. Il bénit son
fils,
il bénit
Esav,
il bénit pas Yaakov.
Oui.
Je ne suis pas
très bien
à comprendre quelle bénédiction
on
peut tirer à travers un
feu croisé. Oui. Ça, il faudrait beaucoup plus de temps qu'une phrase pour te répondre. C'est une question colossale.
Hein?
Tu as la question du coup de dire, alors tu peux dire. Mais très très brièvement, il y a trois choses qu'on oublie. Que, premièrement, Jacob ne voulait pas recevoir ses bénédictions. C'est Rivka qui la lui impose, et on sait qu'elle avait raison, il y a des raisons pour ça. D'une part. D'autre part, quand Ésaü est revenu de la chasse, et qu'il s'est aperçu que sa bénédiction était allée à Jacob, il la reçoit quand même. Ésaü a reçu sa bénédiction. On oublie ça. Elle est un peu modifiée, puisque l'ange l'avait déjà. Puis on oublie. Et troisièmement, on oublie que Jacob a refusé cette bénédiction, elle ne l'a jamais utilisée. Si tu veux, je t'en ai jamais dit. Quand, juste le récit suivant, il est à Bethel pour la vision de l'échelle, qu'est-ce qu'il demande, Jacob? Lechem lechol ou bered l'ibosh. Voilà ce qu'il demande. Vaya Hachem l'ibosh. Il demande du pain pour manger et un vêtement pour s'habiller. Alors qu'il vient d'être béni de la bénédiction de l'abondance. Okay? Or, c'est un neder, c'est un vœu. Vaïdar neder les mots. Un vœu, c'est toujours un vœu de privation. Ça veut dire Jacob a peur de cette bénédiction, c'est pas pour lui. Il l'a refusée. Il y a un très joli verset qui explique comme ça. Il va jusqu'à refuser le commerce. Parce que ça veut dire du pain pour manger, bien sûr, du pain pour manger, et un vêtement pour s'habiller. Il dit, je ne veux pas du pain que je dois vendre pour acheter un vêtement, c'est le commerce, qu'est-ce? Et je ne veux pas un vêtement que je dois vendre pour acheter du pain. Donne-moi du pain pour manger, un vêtement pour m'habiller. C'est joli. Et après, quand il revient de chez Laval, il va se justifier devant Ésaü, tout ce que j'ai ramené, ça ne vient pas de la bénédiction de ton père. Ça vient de mon travail. Okay? Ceci dit, il faut étudier la raison pour laquelle Rivka est intervenu. Pour que la bénédiction de l'abondance passe aussi matérielle à Jacob. Elle craint de les perdre les deux. Alors là, ça vaut la peine qu'on retrouve ce sujet. Pas maintenant, on est avec Caïn et Abel, il faut arriver vite à Abraham, mais si Dieu veut, lorsqu'on arrivera à la famille des patriarches, qui me rappellera cette question, parce que là nous voyons une différence de mentalité entre deux milieux religieux différents. Il y a un milieu religieux qui est de type Jacob et qui a peur de tout ce qui concerne la vie terrestre, donc la bénédiction correspondante. Il y a un autre milieu religieux qui, lui, est comme Israël, et Israël, c'est plus Jacob. Alors vous devinez de quoi je parle, ok? La bénédiction matérielle, Jacob en a peur. Il préfère s'enfermer quelque part où il reste avec ses livres. Okay? Tandis qu'Israël, lui, il a les mains. Il n'a pas son problème. Vous savez pourquoi il y a des juifs pieux qui n'ont des mains plus? C'est parce qu'ils n'ont pas de mains. Alors elles sont plus. Tandis qu'Israël, lui, il a des mains. Il travaille la terre avec. Bon, alors on sait.